Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. Je vous propose que nous fassions une lecture dans l'Ancien Testament. Je voudrais simplement vous dire en préambule que quand tout va bien, c'est facile de faire les choses. C'est vrai. On peut être gentil, on peut être aimable, on peut aider les autres, mais quand ça va mal, quand on est aux prises avec des problèmes, alors à ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est précisément le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin dans notre méditation. Lorsque les choses ne sont pas aussi faciles, alors, nous sommes parfois sollicités de nous irriter, peut-être même de nous décourager, d'abandonner. Alors, c'est précisément, ce que nous trouvons dans le livre de Job. Alors, c'est vraiment un livre particulier, vous en conviendrez. Livre de Job, au chapitre 36, dans cette première partie, nous pourrions peut-être appeler premier paragraphe. Alors, Job, chapitre 36, et nous allons méditer ce texte. Et réfléchir justement sur notre comportement, nos attitudes, voire nos réactions devant le mal. Peut-être pourrions-nous titrer le message ce matin, souffrir et faire le mal. Voilà, c'est dit. Verset 2, attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de loin et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois et les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme des débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse, pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer. Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y prédispose. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y prédispose. Le sujet du livre, et nous le connaissons parce que je suis convaincu que vous avez déjà certainement lu et relu le livre de Job, le sujet du livre, c'est la souffrance et la manière de l'accepter, voire de l'appréhender. Les protagonistes et l'acteur principal, finalement, qui nous est présenté, c'est Job, qui, vous remarquerez, est déclaré dès le chapitre premier de ce livre, déclaré par Dieu un homme intègre et droit. Et on a peut-être du mal à comprendre comment un homme de la sorte où Dieu rend un témoignage d'excellence, d'intégrité et de droiture, eh bien, comment se fait-il qu'il lui arrive toutes ces choses, tous ces malheurs? On le sait, aux prises avec d'immenses détresses, perte de ses biens, perte de ses enfants. On y ajoute aussi la perte de sa femme, parce que elle n'est pas d'un grand secours auprès de lui. Elle l'entraîne même à dire, eh bien maintenant, tu maudis Dieu et tu meurs. Comme ça, on sera débarrassé. Et puis, nous voyons qu'il est au beurre du désespoir, et se présente à ce moment-là, dès les premiers chapitres, vous vous en souviendrez, se présente à son chevet trois de ses amis. Il y a Éliphaz, alors je dis pas d'où ils viennent, hein, parce que c'est compliqué. Il y a Bildad et il y a Tsophar. Cependant, à la circonstance, on peut avoir des amis, c'est vrai, dans des moments difficiles de notre vie, mais ils vont se révéler des amis fâcheux. Alors quand on n'est pas bien, on a besoin de bons amis. On a besoin de bons conseils. Mais là, ceux qui se présentent à lui, eh bien, en quelque sorte, vont l'accabler de culpabilité, vont lui dire, eh bien, tu sais, si t'arrives tout ça, Job, c'est que certainement tu l'as bien mérité. Alors je peux vous dire que quand on n'est pas bien, quand on est malade et qu'on entend ça, ça vous réconforte. Et on peut les appeler, en tous les cas, les amis fâcheux. Et puis, il y a un quatrième personnage qui apparaît. Il s'appelle Élihu. Celui-ci parle à Job comme si c'était Dieu lui-même qui plaidait la cause de Job. Et c'est un homme inspiré, c'est un jeune homme, les autres sont des anciens. On en a parlé hier que... Est-ce que je dois revenir sur ce que j'ai dit hier? Que normalement, l'âge doit nous donner cette couronne d'argent et de sagesse. Mais là, on voit que c'est tout à fait l'inverse qui se passe. C'est un plus jeune qui va donner des paroles de bon sens et de sagesse et d'encouragement. Et il va parler de la part de Dieu pour plaider la cause de Job. Le thème de la souffrance ici, dans notre texte, peut se distinguer en quatre catégories. Écoutez bien, la souffrance châtiment, qui est défendue par les fâcheux amis de Job, qui lui disent, eh bien voilà, si tu es malade, c'est parce que justement, eh bien, t'as fait des choses et Dieu te punit. C'est la souffrance, châtiment. Il y a également dans ce chapitre, eh bien, ce que nous pourrions appeler la souffrance par solidarité. C'est-à-dire qu'on porte avec. Et c'est ce qui a donné le mot compassion. Finalement, compassio en latin. Et puis, il y a la souffrance dispensée par amour. Par amour pour maintenir l'homme dans l'humilité et la dépendance de Dieu. C'est ce que nous trouvons particulièrement dans ce sens d'écharde en ce qui concerne Paul. Il en parlera. Vous savez, dans le chapitre 11 de 2 Corinthiens, alors c'est la souffrance qui est dispensée par amour, celle que peut-être nous avons du mal à comprendre, mais cette souffrance-là a un but, elle a un sens tout à fait particulier. Et puis une dernière catégorie de souffrance, cette sorte de souffrance, qui fournit finalement à l'éprouvé, à celui qui en souffre, l'occasion de donner raison à Dieu contre l'adversité, contre particulièrement le malin, contre le diable, contre l'adversaire par la fidélité dans les mots que cet homme souffre finalement et qu'il ne comprend pas. Et il y a bien des choses que nous ne comprenons pas, que nous comprendrons plus tard, mais à ce moment-là, eh bien, notre chemin difficile va glorifier Dieu, va amener à Dieu à manifester la justice et la sainteté de Dieu. Ce que nous pouvons dire dans ces quatre aspects de cette souffrance. Nous avons dans le chapitre 36, celui que nous avons ouvert, une leçon magistrale qui fait le tour du comportement humain, et je pourrais dire le tour du comportement, je change le mot, chrétien, parce que c'est aussi, eh bien là, quelque chose qui nous interpelle. En d'autres termes, l'attitude que nous pouvons avoir en tant que chrétiens dans la douleur est où nous y percevons très clairement la grâce de Dieu qui nous est donnée malgré les souffrances. Cette grâce de Dieu qui est offerte aux souffrances, aux souffrants, tout en garantissant que Dieu est juste, même si nous ne comprenons pas, lorsque l'homme souffre à cause de ses propres fautes. Et c'est vrai que ça recouvre beaucoup de choses, eh bien assez fortes, que nous allons, dans lesquelles nous allons rentrer ce matin, et c'était en quelque sorte un préambule. Et cela commence par ces mots, au verset 2. « Attends un peu, dit Élihu à Job, attends un peu, parce que j'ai des paroles pour la cause de Dieu. » Alors, est-ce que Dieu aurait-il besoin d'être défendu? Ça, c'est la première question que nous pourrions nous poser. Pour ce qu'il fait, ce qu'il permet, et que nous ne saisissons pas, qui nous dépasse, qui est au-delà de notre compréhension. Et vous savez que lorsque nous souffrons, eh bien, il y a beaucoup d'interférences dans notre tête, beaucoup d'interférences dans notre cœur, et c'est vrai que parfois nous perdons un peu le contrôle des choses. En d'autres termes, Dieu pourrait dire à celui qui souffre, « Ne t'impatiente pas. Quand tu ne sais plus, ou quand tu ne sais pas, alors à ce moment-là, eh bien, je demeure néanmoins auprès de toi. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est certainement pas quelque chose de fortuit, n'est pas quelque chose de gratuit, mais c'est quelque chose qui va t'amener beaucoup plus loin. » Ça, c'est toute la leçon du livre de Job. La cause de Dieu d'un côté et l'incertitude humaine, quand les douleurs portent ou nous portent à nous aigrir, quelquefois à avoir des mouvements d'intempérance, voire même jusqu'à accuser Dieu. De dire, eh bien voilà, ce qui m'arrive, c'est la faute de Dieu. Et comment permet-il que je souffre de cette manière? Il y a un homme qui pouvait le dire, c'était Job. Et pourtant, nous avons lu tout à l'heure qu'il était intègre et droit. Et de faire de Dieu le responsable, finalement, de tous nos malheurs. La réponse divine à cette question mais est aussi évidente que surprenante. En fait, Dieu ne révèle jamais les coulisses de l'adversité et de l'épreuve. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on plonge, quelquefois sans nous en rendre compte, dans des situations difficiles, qu'elles soient au niveau de notre santé, qu'elles soient au niveau de notre vie de couple ou de notre vie familiale, ou dans toutes sortes de contextes difficiles à vivre, et nous y avançons un peu comme nous le disions vendredi soir, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Et quelle barque? La barque de la tempête, la barque de l'ouragan. Je disais donc que Dieu ne révèle jamais les coulisses de l'adversité. Nous y rentrons, mais nous ne savons pas ce qui se passe. Finalement, et bien là, en dehors de nous. Vous remarquerez que dans le livre de Job, le chapitre 1er et le chapitre 2 du livre de Job, Job ne comprend pas ce qui se passe. Puisque ça se passe dans les lieux célestes, il nous est dit que Satan posa sa main sur lui. Nous, on le sait parce que c'est écrit dans la Bible, mais lui, il n'avait pas son histoire. C'est lui qui est en train d'écrire l'histoire. Alors, c'est pour ça que ces coulisses, nous ne les comprenons pas. Dans l'adversité, Dieu se révèle lui-même à travers sa grâce, à travers sa puissance et à travers la gloire de ses œuvres. Et pour le cas de Job, nous pourrions le dire, Dieu lui parle ainsi, et c'est pour le moins étonnant de la manière dont il lui parle. Et vous allez voir de quelle manière Dieu parle à Job, et peut-être qu'il nous parle aussi d'une manière étonnante. Mais, comme c'est écrit, nous n'y prenons pas forcément garde, parce que quand Job pose des questions à Dieu, Dieu va lui répondre de cette manière. Job, nous le savons, c'est un homme qui souffre, et en tous les cas, il pouvait lui dire ceci, comme il peut nous dire ceci dans nos épreuves. Tu sais, Job, tant que l'homme ne saura pas expliquer et reconnaître la façon dont je dirige le monde physique, parce que c'est bien cela, Dieu est aussi souverain dans le monde physique, alors on ne comprend pas pourquoi il y a eu un ouragan, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, et puis un tsunami, et bien là, en début d'année ou en fin d'année de l'année dernière, parce qu'il y a là tout un contexte qui nous échappe, et même les hommes les plus forts, même l'empire le plus fort de la Terre actuellement, eh bien, est en train de se faire dévaster complètement et totalement. Parce que ça fait partie des choses qui dépassent notre entendement. Alors on peut avoir des armes, on peut aller peut-être sur Mars, sur Vénus, et puis voilà qu'un ouragan passe, et puis finalement on ne peut rien maîtriser du tout. Ça, c'est la petitesse de l'homme. Devant les explications qu'il réclame, et quelquefois avec violence, et avec une certaine colère devant Dieu. Alors, Dieu dit en quelque sorte à Job, c'est cette façon de dire les choses, alors, tant que l'homme ne saura pas expliquer les raisons, les causes, le fonctionnement de ce monde, de cet univers physique, eh bien alors à ce moment-là, que l'homme ne me donne pas de leçons sur la manière de je dirige l'univers moral et spirituel. Et vous savez comment Dieu parle à Job pour lui expliquer un petit peu ses souffrances? Eh bien, si nous lisons finalement le chapitre suivant, Dieu va lui donner une leçon à travers, eh bien, l'atmosphère. Il va lui parler des cieux, des nuées. Il va lui parler des saisons, il va lui parler du soleil, il va lui parler des astres. Il va lui parler des animaux, des biches, du cheval, de l'hippopotame, du crocodile. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire pour expliquer ce que nous souffrons? C'est ça la question. Moi, quand je suis malade, qu'on me parle de l'hippopotame ou qu'on me parle de ceci et cela, ça me fait pas grand-chose. Parce que j'ai mal, et puis point final. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu va parler à Job pour lui expliquer les choses. Alors, si nous ne pouvons pas expliquer finalement cet univers physique qui nous environne et que nous voyons, hein, parce que nous le palpons, nous le touchons, nous vivons dedans, alors qu'à ce moment, cette créature qui s'élève et qui dit « c'est Dieu qui est responsable », alors Dieu répond tout simplement à l'homme d'hier et d'aujourd'hui que dans toute chose, il est souverain et qu'il ne vienne pas, que l'homme ne vienne pas donner des leçons sur la manière de diriger finalement le monde et cet univers moral et spirituel. Voilà la cause de Dieu. Voilà la cause de Dieu qui cause tant d'impatience et d'irritation aux hommes. Toutefois, il faut examiner la question de plus près et nous y arrivons à travers le verset 3. Quand Élie dit à Job ces paroles, « Je prendrai mes raisons de loin, je prouverai la justice de mon Créateur. » Que de réactions superficielles ou dans nos excès de jugement. Parce que nous souffrons, nous mettons en doute jusqu'à la justice de Dieu, parfois. Est-ce que Dieu serait juste? J'ai vu hélas des frères et des sœurs, des chrétiens, des enfants de Dieu, s'irriter contre Dieu. Et te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal, Seigneur. Je te sers depuis des années, je suis converti, je fais tous mes efforts pour ceci et cela, et qu'est-ce qui m'arrive? Ben oui, mais il y a des choses qui nous dépassent, frères et sœurs. Et puis, quelquefois, dans tout cet univers moral, il faut pas oublier qu'il y a un ennemi aussi. Puis je peux vous dire que quand il peut se charger de prendre en main des hommes intègres et droits, il va pas se gêner de le faire. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les choses, et bien là, sur plusieurs fronts à la fois. Donc nous voyons que c'est une audace dangereuse de s'en prendre à Dieu dans cette situation. Connaître la parole de Dieu nous la fait accepter comme la vérité. C'est ce que nous dit la première partie du verset 4 quand il est dit ceci, « Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. » Et vous savez ce que nous avons besoin dans les épreuves? C'est pas de tant regarder eh bien ceci et cela, où s'en sont les autres, mais c'est de regarder la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas un mensonge. Et ce que nous disons ce matin, pour exhorter, pour encourager et pour consolider la foi de ceux qui souffrent, eh bien, c'est la vérité. Et que Dieu lui-même est vrai dans son amour, c'est la suite, mes sentiments devant toi sont sincères. C'est Dieu qui parle à ce moment-là à Job. Un peu plus loin, nous avons au verset 5 cette parole, « Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. » Sa puissance incommensurable, pourrions-nous dire, ne l'empêche pas d'avoir compassion. C'est pas parce que Dieu est extrêmement, infiniment puissant qu'il n'a pas de compassion. Et précisément sa puissance, même, a sa source dans son intelligence, qu'il a de nous, de ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous sommes appelés à devenir. Parce que Dieu connaît des choses que nous ne connaissons pas. Et ça fait partie peut-être justement de ce programme qui nous échappe. Parce qu'à travers, finalement, eh bien là, ces moments de difficulté que nous connaissons, Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Et ça, nous ne le comprenons pas, nous ne le saisissons pas, nous vivons l'instant, et l'instant, souvent, est malheureux. Et pourtant, Dieu a une perspective. Puissant par la force de son intelligence, nous est-il dit, puissance et force, tout en douceur, dans un but précis, parce que Dieu n'est ni aveugle, et il n'est absolument pas un Dieu dominant. Quelles que soient les pressions qui s'exercent sur notre vie ou autour de nous. Quand bien même dans la souffrance, nous en oublierions que Dieu soit juste, parce que notre environnement témoigne du contraire, quoi qu'il en soit, en son temps et en son heure, nous dit le verset 6 que je relis, « Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit au malheureux. » Je dis bien « en son temps et en son heure ». C'est pour ça que nous avons besoin de nous armer de patience. et d'attendre le secours de Dieu. Vous connaissez ce que dit le livre du prophète Jérémie, livre Lamentation de Jérémie. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors, il fait droit aux malheureux. Et je crois que nous avons besoin, les frères et sœurs que nous sommes, eh bien, de cesser de désespérer de voir le bien triompher. Et moi, je suis là pour l'affirmer. Le bien triomphe toujours du mal, quoi qu'il en soit. L'histoire des hommes nous l'a montré. L'histoire militaire. L'histoire de la tyrannie des hommes. Qu'il y a toujours un moment, un renversement. Et qu'il peut y avoir un empire qui opprime. Pendant des années, des décennies, à un moment donné, il est toujours renversé. Vous lisez le livre de Daniel et vous comprendrez parce qu'il est question d'une perspective d'empire qui se succèdent les uns et les autres et qui sont renversés les uns par les autres. Et c'est Dieu qui finalement prend le dessus dans cette affaire. Que Dieu garde le silence longtemps, sans répondre à nos prières, en l'absence de signes attendus, une chose est certaine, même si nous ne le savons pas, même si nous ne le ressentons pas, le texte nous dit, il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il délivre le malheureux et il ne détourne pas les yeux de ceux qui sont justes. Alors, je crois que nous avons besoin certainement de comprendre et de réaliser ce privilège que nous avons, que nous sommes toujours regardés, que nous sommes observés, que nous sommes suivis du regard de Dieu, et en raison de cela, notre attitude ne doit pas être la révolte, mais tout simplement de demeurer dans cette justice en faisant en tout temps ce qui est bien, même si ça va mal. Même si le mal est en moi, même si le mal est autour de moi, je ne dois pas céder à la pression du mal et me livrer au mal, parce que le mal m'y prédispose, comme nous l'avons lu. Mais à ce moment-là, je dois me camper dans cette position de dire, Seigneur, c'est vrai que je souffre. Mais c'est pas parce que je souffre que je dois me livrer au mal, moi aussi. Et avaliser le mal. C'est l'apôtre Paul qui dit cela aux chrétiens de Rome quand il affirme, attachez-vous fortement au bien. Alors, le mot attacher, ça veut dire se ceinturer. Ça veut dire se ceindre véritablement dans le bien. Et on ne bouge pas parce qu'on est attaché au bien. Et l'apôtre dira dans 1 Thessaloniciens, poursuivez toujours le bien. Et vous savez, je le répète parce que j'ai commencé comme cela, c'est beaucoup plus difficile de faire le bien quand ça va mal. Quand on est mal. Quand on a mal aux dents. Enfin, il n'y a pas que ça. Hein. Quand tout craque autour de vous, c'est difficile à ce moment-là. Souvenons-nous-en, Dieu voit. Ouais, Dieu nous voit. Et il ne nous voit pas pour nous juger, nous condamner, même si quelquefois nous interprétons les choses comme cela, mais il nous voit pour nous délivrer. C'est ce que nous avons lu. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, parce que Dieu voit. Il y a les yeux et le regard de Dieu, naturellement, mais il y a aussi sa main, nous allons le découvrir, qui agit dans l'invisible, souvent à notre insu, puisque ce texte qui vient ensuite, c'est « Il les place sur le trône des rois, il les fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. » C'est Dieu, de sa main, qui nous place sur les trônes des rois. Mais avant la glorification ou la gloire, il y a toujours l'humiliation. Ça, c'est le principe de l'évangile, c'est le principe de la croix. L'exemple par excellence que je voudrais citer, c'est le cas de Joseph. Joseph en Égypte, qui dans l'adversité a réalisé le plan de Dieu jusqu'au trône, parce qu'on peut parler de trône en quelque sorte, deuxième personnage du plus grand empire du monde connu d'alors. Et il est devenu véritablement l'homme, après Pharaon, l'homme le plus puissant d'Égypte et du monde. Alors Dieu l'a élevé jusqu'au trône, c'est ce texte qui nous le dit, cependant dans des conditions morales exemplaires. Parce que il a été vendu par ses frères, il a été maltraité, il a été bousculé de mille manières pendant près de 15 ans de sa vie, il s'est retrouvé en prison injustement. Et pourtant, on peut dire qu'il avait des révélations et un appel, Dieu lui avait dit « tu seras ». Mais avant qu'il soit, il est passé aussi par l'école divine, extrêmement difficile et rigoureuse, et pourtant, il n'a pas bronché, il n'a pas failli, il ne s'est pas révolté contre Dieu. Quand il s'est retrouvé du jour au lendemain dans une horrible prison, qu'il s'est trouvé là, dans des conditions où il a été tenté, même moralement, avec la femme de Potiphar, qu'on l'a complètement oublié pendant 2 ans supplémentaires alors qu'il avait fait le bien et qu'il avait parlé de la part de Dieu. C'était un mort, Joseph, mais il était vivant pour Dieu, au fond de son cachot, jusqu'au moment où Dieu a ouvert les portes du cachot et lui a laissé la liberté. Alors, il nous laisse un exemple, finalement, eh bien, de support de la souffrance. Et, dans cette adversité, confronté avec l'iniquité des hommes de son temps, un comportement trouble qu'il avait autour de lui, en tous les cas, il n'a jamais capitulé. Parce que vous savez, quand on souffre et quand on se trouve dans les circonstances de Job, de Joseph, ou de d'autres, ou de vous-même, lorsqu'on commence à bouger un petit peu et à se révolter, ça ne peut pas attirer la bénédiction, c'est pas possible. Et Dieu voudrait véritablement nous donner la bénédiction, mais nous ne savons pas la prendre, alors nous commençons à tirer à U et à Dia, en disant « Seigneur, je ne supporte pas !» Et pourtant, Joseph avait l'assentiment de Dieu dans tout ce qu'il était, dans tout ce qu'il faisait, même au cœur de sa prison. Maintenant, dans la suite du texte, il nous est parlé de quelque chose qui est un peu particulier, c'est que survienne une chute. Parce que ça arrive aux hommes, mais ça arrive aussi aux enfants de Dieu. Et la chute est beaucoup plus probable quand nous souffrons que lorsque nous sommes en pleine forme et bien disposés spirituellement au zénith. Alors, quand arrive la chute, quand nous faisons des erreurs et nous pouvons en commettre justement parce que nous souffrons, sans que cela devienne un état permanent, parce qu'il faut faire, frères et sœurs, une différence entre une chute et un état. Quelqu'un qui est dans un état, c'est beaucoup plus grave, mais quelqu'un qui chute, eh bien, ça arrive à tout le monde. Et ne jugeons pas ceux qui font des chutes, parce que quelquefois nous pourrions y passer pour apprendre à ne pas juger. Et ça, je l'ai vu dans le ministère, en quelquefois condamnant ou en montrant un doigt accusateur en disant « Ah, il a chuté, c'est un mauvais chrétien, etc. » Alors, eh bien, c'est ces personnes-là qui, un jour, eh bien, ont goûté un petit peu l'amertume de la chute, puis après, ils n'ont plus rien dit, parce qu'ils sont passés eux-mêmes. Ça fait partie de l'école de Dieu aussi. Alors, soyons miséricordieux. Et nous nous apercevons que survienne finalement une erreur, comme le dit le verset 8, « Viennent-ils à tomber dans les chaînes ? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité ?» Nous remarquons que les chaînes et les liens de l'adversité que nous avons devant les yeux ne sont que les conséquences dont Dieu se sert pour nous rappeler à l'ordre ou pour rappeler à l'ordre les justes qui s'égarent et où Dieu nous dit tout simplement « Réfléchis et constate ». Ça, c'est la première étape que Dieu veut nous montrer. Tu réfléchis à ta situation et tu constates, tout simplement. Conséquences douloureuses, certes, pour éveiller le sentiment et la conscience de notre péché, qui sont manifestés sous 3 aspects différents, par les œuvres, par leur transgression et leur orgueil. C'est ce qu'il nous est simplement dit. Il leur dénonce leurs œuvres, leur transgression et leur orgueil. Alors, les œuvres, ce sont des actions répréhensibles, tout simplement, donc mauvaises. Ensuite, les transgressions, eh bien, ce sont des désobéissances lorsque nous savons être la volonté de Dieu et que nous ne faisons pas. Et l'orgueil, eh bien, c'est une prétention excessive en disant, je suis suffisamment fort. Vous vous souvenez de l'histoire de Pierre que nous avons ouvert il y a quelque temps. La présomption, l'orgueil. Alors, à défaut d'une soumission et d'une humiliation volontaire, le verset 10 s'ensuit. Il les avertit pour leur instruction, il les exhorte pour se détourner de l'iniquité. C'est encore une manifestation de la grâce de Dieu. L'avertissement et l'exhortation s'appellent chaîne et lien d'adversité, comme nous l'avons lu au verset 8. Et puis nous continuons dans les versets suivants, 11 et 12. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Écoutez ou non, quelles que soient les conditions dans lesquelles on est. J'écoute ou je n'écoute pas. La suite sera en conséquence de notre choix. Si nous écoutons, nous voyons ce que Dieu nous dit, alors ils achèvent les jours dans le bonheur. Maintenant, s'ils n'écoutent pas, eh bien, c'est assez redoutable, hein, cette expression « ils périssent par le glaive ». Je me demande, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers cela ? Est-ce que les hommes, quelquefois, sont fauchés à travers tous les souffles et les ouragans de la guerre ? C'est possible, le glaive, c'est ça, en quelque sorte. Quelquefois, il y a... C'est dramatique, mais dans nos sociétés, il y a des coups de souffle qui épurent. C'est terrible, ce que je suis en train de dire. Mais quand les hommes sont fous, quand les hommes n'ont plus de, de repères, quand ils n'ont plus de principe, quand ils appellent mal bien et bien mal, alors à ce moment-là, quelquefois, il y a des choses qui sont remises en place. Par la souffrance et la douleur et dans le sang. Ça, c'est l'histoire de notre monde. Et on se dit pourquoi, pourquoi? Et les hommes, jusqu'à la fin des temps, poseront toujours cette question. Pourquoi, Seigneur? Eh bien, l'explication, nous pouvons déjà la trouver un petit peu à travers le livre de Job. C'est une sagesse élémentaire, d'une part. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, nous dit un autre prophète. Et c'est vrai que quelquefois, il faut passer par certaines humiliations. Parce que c'est quand nous sommes humiliés que nous prenons conscience que nous sommes sur une mauvaise voie. Et sanctionné par la promesse de bonheur et de joie lorsque nous obéissons. Et il y a là une promesse et une assurance de rétablissement de la part de Dieu. Ou alors la folie d'autre part qui aboutit à un châtiment violent. C'est-à-dire le glaive. Connaissez-vous cette parole dans le livre des psaumes quand il est dit ceci? Celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Dieu est bon, il est très patient. Et quelquefois nous l'avons vérifié, Dieu attend très longtemps pour reprendre, quelquefois. On se dit, mais Dieu est patient. Hein. N'avez-vous jamais pensé à ceux qui vous ont fait du mal, en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne le reprends pas? Pourquoi tu ne le mets pas au pas? Pourquoi, tu ne lui remets pas la tête en place? Et Dieu attend. Et nous, on souffre pendant ce temps-là. Et nous, on souffre. Mais il arrive un temps, comme nous l'avons lu, celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup. Alors à ce moment-là, parce qu'il ne veut pas entendre la réprimande, il ne veut pas comprendre le message de Dieu, il nous est dit qu'il sera brisé subitement et sans remède. Et ça c'est terrible, hein, c'est une parole affreuse, pourrions dire. Mais parce que derrière il y a un aveuglement qui cause la ruine de celui qui ne veut pas écouter, et sans qu'il s'en doute, et je dirais même qu'il finira par être persuadé d'être dans le bon chemin, parce qu'il y a un problème chez lui. C'est qu'il y a la cause de cette situation, c'est qu'il n'a pas l'amour de la vérité pour écouter Dieu. Et pour que Dieu véritablement nous conduise et nous dirige, il faut avoir l'amour de la vérité. Et sa parole est la vérité. Nous en arrivons maintenant à la colère. La colère est la caractéristique d'un tel comportement. Et bien que châtié par Dieu pour leur salut, les hommes qui se révoltent n'entrevoient pas que Dieu attend un mouvement de repentance seul capable de les sauver. Regardons les versets suivants. Ils perdent leur vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme des débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Oui, Seigneur, donne-moi de comprendre ce que tu veux me dire ce matin. C'est dans ma souffrance que tu m'avertis peut-être d'un plus grand péril et d'un plus grand danger. On essaierait de près, hein, à travers la parole de Dieu ce matin, assurément, moi y compris. Parce que quand on considère ces choses, et quand on va dans le fond du texte, on s'aperçoit que tout ça, c'est pas du blabla. Je dis qu'il y a là, eh bien, un enseignement fondamental dans notre vie. Et je crois que c'est pour tous les chrétiens que nous sommes ici et ailleurs, nous avons vraiment besoin de comprendre les raisons de Dieu et son éducation, la manière dont il nous traite. C'est pas pour nous détruire. Mais c'est pour nous élever et nous mettre sur des trônes. Et nous, nous ne comprenons pas ça. Dès que nous commençons à être un petit peu molestés par les événements ou par les hommes, alors nous commençons à crier en disant « Dieu, c'est injuste. Dieu, tu es responsable. Je ne comprends pas. Faire ça à moi, moi qui suis juste. Mais il n'y a pas de juste. C'est ça le problème. Et si nous avons été sauvés, nous avons été sauvés par grâce. Dieu nous a fait miséricorde, non pas à cause de nos beaux yeux, mais tout simplement parce qu'il nous aime. Et il nous aime, il nous a aimés dans notre péché avant même que nous le connaissions. C'est pour ça que nous sommes des privilégiés. C'est pour ça que nous n'avons rien à dire devant Dieu. Et que nous pouvons dire simplement, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce d'être ce que je suis aujourd'hui. D'être un enfant de Dieu, d'être racheté. Et de pouvoir bénir ton nom, de pouvoir te louer, de pouvoir te prier. Et d'être intégré dans ton corps qui est le corps de Christ pour te servir. Et bientôt, eh bien, je rentrerai dans cette dimension qui est la vie éternelle. On n'a rien à dire, frères et sœurs. Et si on commence à dire « c'est pas juste », alors là, on se trompe gravement et grandement. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Seigneur, j'aime pas quand je souffre. Vous aimez ça? Bon, je comprends que je suis pas tout seul. Mais à travers cette éducation, il faut bien que nous soyons éduqués d'une manière ou d'une autre. Et si nous ne le sommes pas volontairement parce que nous nous acquiesçons et nous nous soumettons, finalement, eh bien là, volontairement devant Dieu, à un moment ou un autre, Dieu nous fera passer par cette école beaucoup plus rigide. Non pas qu'il aime nous faire passer par là, mais parce que nous ne voulons pas entendre autre chose. C'est ça. Quand la maman ou le papa dit à un petit garçon ou une petite fille désobéissante, « Je te demande d'obéir », alors la maman et le papa lui disent gentiment au départ. Puis, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait après? Le papa sort les mains de ses poches, bing bing, vous voyez? Ben oui. Enfin, on le fait plus quand ils ont 20 ans, hein, puis ça se passe, après c'est fini. Puis la même chose, hein. Mais je veux dire, finalement c'est le reflet quelque part, ben oui, Dieu nous éduque. Dieu nous éduque par la souffrance, et c'est ainsi par la souffrance qu'il nous avertit. C'est peut-être assez difficile, hein, quand même à comprendre, mais c'est quand même ce qui se passe en réalité de toute façon. Pourtant, s'ils savaient, si les hommes savaient, si nous, les enfants de Dieu, nous savions, et que nous puissions comprendre ce verset qu'à travers nos misères, eh bien, il y a là une introduction dans une nouvelle dimension de notre vie spirituelle. Alors, on comprendrait peut-être mieux les choses. Il y a la traduction de ce texte dans une autre version, je pense que c'est la traduction hébraïque du rabbinat français. Quand cette traduction, nous l'avons dans notre Bible, c'est « Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit ». Cette traduction dont je vous cite, c'est « Et par la souffrance, il ouvre son oreille au conseil ». Un petit distinguo. Mais ce que nous ne sommes pas enclins à entendre quand tout va bien, alors à ce moment-là, eh bien Dieu nous parle et nous ouvrons notre oreille, et nous comprenons les conseils de Dieu. Après l'école volontaire de la docilité, ce qui fait que nous plions notre volonté, Dieu n'a pas d'autre recours, si nous ne voulons pas passer par cette école, finalement, de l'obéissance, que d'appliquer l'école de la discipline et de l'expérience douloureuse, qui fait écho à Pierre quand il dit ceci dans son épître. Je retrouve tout simplement le texte et je le cite, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er, écoutez bien, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Vous connaissez hein, ce passage. « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Et le péché peut-être principal de beaucoup d'entre nous, c'est finalement l'entêtement. C'est ne pas vouloir obéir et de nous buter sur certaines choses. Je dirais que c'est une mesure de dernière solution de la part de Dieu. Et il vaudrait mieux peut-être comprendre les choses tout de suite que d'attendre que ça se complique. Dans l'éventualité d'un choix positif, le verset 16 nous enseigne et il nous fait une promesse, il te retirera ainsi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Lorsque la leçon a été apprise, la souffrance prend fin. Je dis bien que nos souffrances prennent fin. Nous crions en disant « Seigneur, secours-moi ! Nous périssons !» comme disaient les disciples dans la barque. Mais je crois que nous, notre vision, c'est d'échapper le plus vite possible à ce qui nous fait mal. C'est vrai, et c'est humain, c'est naturel. Mais Dieu a en vue autre chose, et à partir du moment où, lorsque nous avons appris cette leçon de Dieu, eh bien Dieu va finalement enlever l'aiguillon de notre douleur. Parce que son but est de sauver et non de détruire. Parce que moi je crois en la réalité d'un Dieu bon et miséricordieux. Et il est bon et miséricordieux pour chacun d'entre nous. Souvenons-nous, nous sommes ses enfants. Et il nous traite, nous le verrons tout à l'heure en conclusion, il nous traite comme un vrai père. Et quel est le père, à moins que ce soit un père indigne, des parents indignes de ce nom de parents, mais en principe, nous faisons du bien à nos enfants. Et nous avons une expérience de vie pour leur montrer qu'il y a des dangers, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, et qu'à travers cela, eh bien, finalement, eh bien, nous les préservons. Et qui, quelquefois, eh bien, nous sommes obligés de, là, leur faire des réprimandes, si c'est nécessaire. Alors, à combien plus forte raison, celui qui est dans le ciel veut nous sauver de nous-mêmes d'abord. Alors Dieu met un terme à cette souffrance, à cette misère que j'appellerais misère autorisée, pour un temps. Et il s'en sert pour bénir celui qui a été soumis, et vous connaissez ce texte que je cite de mémoire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés, selon ses desseins, de ceux qui aiment Dieu. Notre force de support, ce sera l'amour de Dieu. Premièrement, nous l'avons vu dans ce verset 16, que Dieu écarte le malheur, il nous met au large, c'est le terme qui est employé. Deuxième point, deuxième étape, il nous rend la liberté de tout ce qui nous emprisonne. Et en troisième plan, il dresse devant nous une table, l'étape qui est l'image de l'abondance, de la qualité et du rassasiement. Et Job a eu sa table dressée au chapitre 42. Vous le lirez, c'est le dernier chapitre conclusion du livre de Job. Et David dira, tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. Mais il parlera de ses ennemis. Il parlera auparavant de la vallée de l'ombre de la mort. Toutefois, le verset 17, c'est une étude biblique ce matin qu'on faisons. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Vouloir à tout prix avoir raison, lorsqu'on a tort, est une défense perdue d'avance. Elle est peut-être pas perdue devant les hommes en apparence, mais finalement c'est quand même qu'une illusion. Mais en tous les cas, elle est perdue d'avance devant Dieu. Si Mordicus, même quand j'ai tort, je dis, eh bien, j'ai raison quand même, ben, il vaut mieux quand même changer d'attitude et le plus rapidement possible, parce que de toute façon, c'est mal parti. Je tiens à le dire et à le rappeler ce matin. La conclusion de l'affaire prouvera la valeur des armes que nous avons utilisées. Soit ce sont des armes charnelles, qui nous amèneront encore à descendre encore un peu plus bas, ou alors ce sera des armes spirituelles qui nous élèveront. Et tournera à notre confusion si nous prenons des armes charnelles. Et la logique est imparable. Parce que dans l'Épître aux Galates, Paul dit ceci, « Celui qui sème le vent récolte la tempête. » Et par contre, dans le sens contraire, Paul affirmera également dans une autre épître, « Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. » Frères et sœurs, je voudrais le dire au passage, « Soyons des hommes et des femmes qui procureront la paix autour de nous, même lorsqu'il y a la guerre, parfois, dans notre environnement ou parfois même dans notre propre cœur. » Écoutez, j'aime bien cette parole. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Et Dieu nous bénira parce que nous sommes des hommes et des femmes qui recherchons la paix. Et pourtant, je peux vous dire que quelquefois, ça crépite autour de nous. Vous savez, votre vie n'est pas facile. Mais je voudrais le dire au passage, la vie d'un serviteur de Dieu n'est pas facile non plus parce que bon, quelquefois, je dis Seigneur, c'est pas aux armes citoyens. Mais on essaie de calmer un peu les choses parce que si le pasteur tombe dans les pièges et dans toutes les émotions et dans toutes les turbulences, alors à ce moment-là, il n'y a plus personne. C'est pour ça qu'il faut garder raison. Et il faut absolument que nous nous donnions comme règle, eh bien, de procurer la paix. De toute manière, envers et contre tout, et le Seigneur sera avec nous. Toutefois, par entraînement, parce que la suite du récit nous le dit, au verset 18, que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Vous voyez, il y a toute une suite dans notre réflexion qui nous amène finalement, eh bien, à l'aboutissement de ce dernier verset que nous allons commander et conclure. Que l'irritation, la colère, toutes tes impulsions incontrôlées, ces réactions épidermiques, je reconnais naturelles et humaines, mais qui ne sont pas forcément, eh bien là, à arranger les situations. Alors que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, toute désobéissance conduit tôt ou tard à l'aigreur, donc on peut le traduire par irritation, dont une de ces expressions est la moquerie, parce que la moquerie, c'est une lâcheté. On se moque de quelqu'un parce qu'on n'a pas le courage de le voir en face et de lui dire les choses en face. Alors on le dénigre auprès des autres. Moi, il y a une chose qui m'attriste beaucoup. C'est quand on critique les autres et qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Ça, c'est un sujet de tristesse pour un serviteur de Dieu. Moi, ça me fait mal. Parce que vaut mieux avoir le courage de dire, et puis quand on est aux prises avec toutes sortes de choses qui sont difficiles à vivre, pourquoi parler des autres? J'ai déjà affaire avec assez avec moi-même. Vous n'êtes pas d'accord, frères et sœurs? Alors en plus, il faut y ajouter la moquerie, parce que la Bible nous parle de la moquerie. Se moquer de Dieu ou de quelqu'un est un péché. Il faut le dire, c'est pas une petite affaire. Regardez notre société aujourd'hui. elle est en train de prendre certainement et de se charger de quelque chose qui va être très, très difficile. Regardez comment on se moque de tout. On se moque des pouvoirs politiques, on se moque de n'importe quoi. On tourne tout en dérision. Et vous savez, ça finira par aller mal. J'ai remarqué que les humoristes, quels qu'ils soient, ils ne vivent pas très vieux. Vous avez remarqué? Alors, je ne veux pas citer de nom, hein, parce que vous les connaissez, il y en a eu dans notre temps. Mais ils vivent pas très vieux, soit ils se tuent en moto, ou... Enfin, je dis plus rien. Non, mais c'est vrai, parce qu'on ne peut pas se moquer impunément de tout. Et ça, je crois que c'est une grande leçon pour nous. Faisons attention de ne pas nous moquer, ni de Dieu, ni des enfants de Dieu, et encore moins peut-être de tous les hommes qui sont autour de nous. Parce que ça, c'est pas une œuvre d'évangélisation et de salut quand on se moque des autres. C'est plutôt le contraire. La parole de Dieu sanctionne cette attitude au moins 65 fois. C'est quand même pas une petite affaire. Il est question de la moquerie dans la Bible. Et un livre particulier nous parle de la moquerie dans la Bible, c'est le livre des Proverbes. Vous pourrez le lire. Se moquer, c'est tourner en dérision ou ridiculiser dans le but de discréditer. C'est une forme de violence. Oui. Une forme de violence finement dirigée qui la rend encore plus pernicieuse et coupable. Dans le Proverbe, chapitre 9, il est dit ceci, « Si tu es moqueur, tu en porteras la peine. » Alors après, on dit, qu'est-ce qui m'arrive? Il me tombe toutes sortes de choses sur la tête, mais quelquefois si. Si nous pensions un petit peu à ce que nous avons laissé traîner derrière nous, à travers notre langue, des moqueries, toutes sortes de choses, des critiques, de la médisance, quelquefois de la calomnie, de la diffamation, ça ne devrait jamais exister, des choses comme ça. Que ça existe dans le monde, c'est vraiment très très difficile et c'est destructeur. Mais dans le peuple de Dieu, alors là, je pense que c'est quelque chose que Dieu ne peut pas, absolument pas accepter. C'est pas possible. Mais voilà l'homme dans sa souffrance qui est pris au propre piège. Et au verset 19, je finis bientôt. « Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer ? À l'école de la discipline de Dieu, la seule attitude qui vaille est celle de l'humilité, du silence et de la docilité. » Je cite tout à nouveau le verset. Il est bon d'avoir été humilié dans sa jeunesse, c'est vrai. Et il est bon d'attendre aussi le secours de l'Éternel en silence. Parce que quand nous commençons à nous tourner de droite et de gauche, ça fait comme l'effet d'un collier de force. Vous savez ce que c'est qu'un collier de force pour les bêtes ou un chien? C'est-à-dire que plus il tire, plus ça serre. Et quelquefois, nous, dans nos débats, dans nos agitations, eh bien, nous tirons, finalement, sur cet instrument invisible. Et plus nous tirons, plus... Excusez-moi, vous avez compris ce que ça veut dire. Plus nous nous étranglons. Et Dieu, lui, nous dit, mais reste donc tranquille. Tu ne peux pas rester une minute tranquille. Tu ne peux pas rester calme. Mais il faut que tu tires dans un sens ou dans un autre. Mais tu te fais du mal, tu te détruis. Et moi, je suis venu véritablement pour te délivrer et t'apporter le secours, mais tu ne l'as pas vu, tu ne le comprends pas. Toute autre réaction ne ferait qu'augmenter la souffrance dans laquelle nous sommes déjà. Et puis je termine par un aspect qui est peut-être là le summum de notre attitude. Notre mauvaise attitude, c'est la haine. Et vous allez comprendre, au verset 20, il est dit ceci, « Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. » Le mot clé dans ce verset, c'est le mot « enlever ». Qui est synonyme d'éliminer. Et dans la nuit de nos ressentiments, dans la nuit de nos haines, dans la nuit de tout ce qui enserre notre corps et qui, notre cœur, et qui nous amène à ne plus rien finalement voir que, eh bien là, cette chose, ce cancer et cette gangrène à l'intérieur de nous-mêmes, ça c'est une nuit. Alors à ce moment-là, à un moment donné, je souffre tellement, j'en arrive à penser que, eh bien, s'il disparaissait, si elle disparaissait, quelquefois, il y a des gens qui souhaitent la mort de d'autres, hein. C'est dans le thème... là que nous avons lu, qui enlève les peuples de leur place. Donc, cette élimination d'en arriver à dire, eh bien, je vivrais plus heureux s'il n'était pas là ou si elle n'était pas là. Ne pensons jamais cela. Parce que la vie d'autrui ne nous appartient pas. La nuit du jugement, que l'on appelle de nos voeux pour que Dieu tranche arbitrairement et anéantisse nos ennemis. On est surpris de voir un homme comme l'apôtre Jean, quand ils arrivent dans un village de Samaritains, dire à Jésus, parce que les Samaritains ne voulaient pas héberger Jésus, « Seigneur, est-ce que tu veux que nous appelions le feu du ciel pour qu'ils soient tous grillés ?» Enfin, c'était ça un peu, hein, je suis en train de Mais c'est ça ce que ça veut dire, afin qu'ils soient tous détruits. Et quelquefois, parfois, nous, dans nos souffrances, parce qu'on nous a fait du mal, au lieu de réagir en bonté, et, comme dit Jésus, de prier pour nos ennemis, certes, c'est pas facile, mais quelquefois nous disons, Seigneur, hein, alors tu lui donnes une bonne leçon et puis tu l'élimines. Hein. Est-ce que c'est normal? Parce que si Dieu veut qu'il vive, il va vivre. Et si Dieu permet qu'il soit encore, ou elle ou lui, encore à vos côtés, eh bien finalement, eh bien ce sera certainement pour notre éducation. Parce que vous comprendrez que Dieu ne veut pas détruire, il veut sauver. La colère, l'irritation, la moquerie, maudire, ne maudissez pas mais bénissez. Ça, c'est les principes fondateurs, essentiels, du sermon sur la montagne, peuvent aboutir à des positions extrémistes jusqu'à vouloir la mort de quelqu'un qu'on insupporte. Ça peut être des gens proches, ça peut être par exemple un chef de bureau. Demain matin, vous allez reprendre votre travail et vous allez revoir votre chef que vous aimez bien. Il vous en fait voir de toutes les couleurs peut-être. Hein. Ouais. Il y a des gens qui vous en veulent, il y a des gens qui vous font du mal. Comment puis-je supporter cela? Je comprends, frères et sœurs, que les choses sont pas faciles. On y est passé aussi, on a eu à vivre avec des gens qui n'étaient pas faciles. Mais est-ce que ça nous autorisait pour autant à leur faire du mal? Eux, peut-être, ont fait du mal. Mais à ce moment-là, si je réponds au mal par le mal, il y a quelque chose qui ne va plus, je ne peux pas dire que j'ai la foi. Je dis que c'est un comble pour le chrétien évangélique. Je termine en conclusion cette parole. Et j'y ajoute celle-ci. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y prédispose. Il y a là un ultime avertissement, frères et sœurs, et il est sérieux. Et nous avons besoin de faire attention. En d'autres termes, mon frère et ma sœur qui souffraient, le Seigneur est avec toi, je voudrais le dire. Il n'est pas contre toi, il est avec toi, il a préparé une délivrance, il a préparé le secours, la guérison, une nouvelle dimension, où tu ne ressortiras pas comme tu y es rentré dans l'épreuve. Tu ressortiras purifié, tu ressortiras transformé, et tu seras capable d'aimer les autres. Mais que ton infortune, parce qu'on ne choisit pas toujours notre vie, que tes revers, que tes souffrances, que tous les autres liens ou contraintes que tu vis aujourd'hui ne te poussent pas à pécher davantage. C'est ça ce que veut dire « garde-toi de te livrer au mal parce que la souffrance t'y prédispose ». Et qui sait, et je répète, et qui sait que tout cela ne vient pas du Seigneur, parce que Dieu a en sous-main ta vie. Et que quelque part, eh bien là, il y a, c'est vrai, un test, une épreuve, une tentation qui est grande. Mais lorsque je lis, et je termine sur ce dernier texte, lorsque je lis les lois qui régissent, finalement, le royaume moral de Dieu, je m'aperçois d'une chose. Quand je relis ce texte, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Il n'y en a qu'un qui a résisté jusqu'au sang, c'est Jésus. En luttant contre le péché, on se plaint de des péchés des autres, mais quelquefois, est-ce que l'on ne se plaindrait pas de nous? Est-ce qu'on n'aurait pas raison de se plaindre de nos propres péchés? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, parce que vous êtes fils et filles de Dieu, vous êtes enfants de Dieu, et vous vous glorifiez de connaître le Seigneur, et c'est bien. Mais parce que vous avez ce traitement de faveur, parce que moi je m'occupe pas des enfants des autres, hein. Moi quand mes enfants étaient petits et qu'ils faisaient un petit peu de chahut, un peu de chahut, c'est ça, moi je m'en occupais parce que moi j'étais le père, et je m'en occupais, et quelquefois remarquez, ils m'ont pas gardé rancune, hein. Je les vois, hein, mes enfants, mais c'était moi qui étais le père, j'étais responsable de mes enfants. Par contre, quand il y avait un petit gamin qui faisait des bêtises et qui était à côté dans un jardin public et qui entraînait éventuellement mes enfants, je m'occupais pas de ce gamin, parce que c'était pas ma responsabilité et c'était pas normal que je m'en occupe d'abord. Parce que s'il avait des parents, c'était aux parents de s'en occuper. Et par contre, je m'occupais des miens. Et c'est exactement la même chose que ce que Dieu fait avec nous. Nous faisons partie d'une famille et Dieu s'occupe de nous pour nous éduquer. Alors mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. J'espère que personne va se décourager et de dire, mais maintenant je viens plus au culte. C'est terminé parce que Alain, il a parlé de telle manière ce matin. Frères et sœurs, j'avais vraiment à cœur de vous le dire. Moi, je vous le dis sincèrement, j'avais à cœur, parce que l'Église a besoin d'entendre la parole de Dieu et d'avoir quelque chose qui fasse, qui amène finalement le peuple de Dieu à rentrer dans une nouvelle dimension. Et tant que nous n'aurons pas passé par là, eh bien, on va faire du surplace. Ça, je le sais. Alors, je dis que, surtout frères et sœurs, c'est pas par rapport à moi, mais ne perds pas courage quand le Seigneur te reprend, voire même à travers sa parole. Car le Seigneur châtie, et j'enlève le mot châtier et j'y mets le mot éduquer. C'est une autre nuance, c'est très péjoratif, châtier. Ça veut dire prendre un fouet et puis taper dessus. Mais c'est pas ça. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si un père est digne de ce nom, il va essayer de donner une éducation et conduire son fils dans la vie pour qu'il réussisse. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Et si nous disons que, à ce moment-là, nous ne voulons pas que Dieu nous châtie, alors à ce moment-là, nous n'avons plus rien à faire parmi le peuple de Dieu, puisque nous nous déclarons nous-mêmes enfants illégitimes, alors que nous sommes légitimés par le salut en Jésus-Christ, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, et j'ai remarqué que nous vivions dans un monde où il y a beaucoup de mollesse maintenant dans l'éducation des enfants, et vous savez comment ça se traduit après quand ils sont grands? Ils crachent au visage de leurs parents. J'ose le dire, parce qu'on le voit. Mais par contre, quand il y a une saine éducation, une juste éducation, faite avec amour, les enfants vont vous respecter, mes frères et mes sœurs. Et ils vous aimeront toute leur vie, même si quelquefois il a fallu passer par la fessée. Des fesses rouges, ça se guérit. À combien plus forte raison devons-nous nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, parce qu'on n'aime pas ça, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout. Je suis dans le brouillard. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je me dirige. Mais Seigneur, permets-moi de te dire. Donne-moi qu'il ne sorte ni de mon cœur, ni de mes lèvres, aucune mauvaise parole, aucune révolte, aucune irritation, aucune moquerie. Des choses qui finalement, eh bien, m'entraînent au mal, puisque je sais que dans des temps de souffrance, par l'exercice finalement du mal, ou de la maladie, ou d'autre chose, eh bien, Dieu nous avertit, garde-toi de livrer au mal, car la souffrance t'y prédispose. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Et c'est une parole d'encouragement que je voudrais vous laisser. Dieu est bon. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Seigneur, ta parole a été donnée, et c'est toi par ton Saint-Esprit qui peux nous donner de la comprendre au fond de nous-mêmes. Si nous disons que nous t'aimons, eh bien à ce moment-là, parce que nous t'aimons, eh bien cet amour que nous avons pour toi va nous amener véritablement à nous tenir devant toi et à te dire, eh bien Seigneur, je te permets de faire ceci et cela dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Tu as carte blanche, Seigneur. Et surtout, garde-moi, en effet, que dans toutes ces choses qui appartiennent à mon tempérament, à mon humanité, à ma vie naturelle, à mes points faibles, ne prennent pas le dessus, Seigneur, mais au contraire, Seigneur Jésus, que je puisse vraiment me soumettre pour avoir la vie. Parce que la vie, Seigneur, eh bien, elle passe par cette discipline, par cette éducation de Dieu. Nous voulons te rendre grâce. Si déjà les choses de la vie de la terre, nous passons par la discipline de l'école ou des écoles successives, nous apprenons la politesse. Si nous apprenons, Seigneur, là, eh bien, même à travers, finalement, le permis de conduire, à respecter les autres, pour pouvoir véritablement, eh bien, avoir un comportement qui soit mature, à combien plus forte raison dans la vie spirituelle tu veux véritablement nous dire aussi la même chose. Mais une chose beaucoup plus grande, parce que la destinée n'est pas la même. C'est pas seulement pour les choses de la terre que tu nous appelles. Mais c'est pour les choses du ciel, c'est pour la dimension du ciel, et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Tu nous bénis ce matin, moi je veux te prier particulièrement pour mes frères et mes sœurs, et je veux le faire avec une réelle compassion, Seigneur, qui sont dans des problèmes, dans des souffrances, dans la maladie, dans des infirmités, dans des choses qui n'en finissent pas, qui sont peut-être en but avec la méchanceté d'autrui, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu viennes les visiter par ton Saint-Esprit, et que tu leur dises tout simplement que tu leur dis tout simplement que tu n'es pas contre eux, mais tu es avec eux, et tu les invites à se laisser faire. Tu les invites, Seigneur, à être souples entre tes mains. Tu les invites à ne pas contester, Seigneur, et tout simplement à se confier en toi. Simplement, oui, Jésus, tu visites mes frères et mes sœurs parce que tu veux les amener, Seigneur, à un trône, comme tu nous l'as dit ce matin, afin que nous soyons élevés. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Bénis ton peuple, bénis ton église, bénis mes frères et mes sœurs, bénis cette famille de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ.